écologue qui a redécouvert il y a 100 ans des archives, qui mentionne un Guillaume Costelet à Pont-Audemer. Donc en fait, ce serait le grand-père de Guillaume Costelet, qui était originaire de cette ville. Et il en a déduit que Guillaume Costelet était aussi né à Pont-Audemer. Et sinon, en fait, l'activité de Guillaume Costelet à Évreux, elle est vraiment... dans la seconde moitié de sa carrière, à partir de 1570, et c'est là qu'il va développer plein de projets, notamment à la cathédrale, avec une confrérie et ensuite l'organisation d'un concours.
Et bah justement, donc, par rapport à la confrérie, puisqu'on parle dans votre exposition de la confrérie Sainte-Cécile, quand on évoque cette confrérie, en quoi consistait-elle exactement, qui l'a composée ?
Alors la confrérie Sainte-Cécile, elle a été créée en 1570. On a la chance de conserver quelques archives aux archives départementales à son sujet, et on sait justement un petit peu les membres qui la composaient, et c'est une confrérie assez éclectique parce qu'on a des personnalités qui ont différentes situations. On a un grand nombre d'ecclésiastiques, mais on a aussi des personnes, des seigneurs, des nobles, ou encore des personnes qui ont des fonctions un peu plus judiciaires, des avocats, des procureurs, etc. Donc voilà, c'est une société assez hétéroclite, j'ai envie de dire. Voilà.
Et donc, il y a cette confrérie. Donc lui, il a, quand on parcourt votre exposition, on se rend compte qu'il a été à un moment donné nommé en tant que prince de la confrérie. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ça consistait en quoi d'être prince de la confrérie ?
Alors chaque année, la confrérie élisait un prince. Alors c'est un titre surtout honorifique. Hein. En fait, le prince avait certaines fonctions un petit peu plus particulières. Alors sa fonction principale, c'est d'organiser le banquet qui a lieu à la fin du puits de musique. Donc le puits de musique, c'est ce concours que la confrérie va organiser à partir de 1575, donc 5 ans après la création de la confrérie. Donc lui, il organise le banquet, alors généralement chez lui. Voilà, c'est un peu sa fonction principale. C'est une fonction honorifique aussi. On vient honorer une personnalité qui appartient à la confrérie. Et puis il a d'autres petites responsabilités, notamment tout ce qui va l'éclairage, la décoration dans l'organisation du puits de musique. Voilà.
Et justement, le puits de musique donc à Évreux, qui avait lieu, qui était organisé, est-ce qu'il attirait beaucoup de monde ? Est-ce que c'est un événement qui rayonnait au-delà du département ?
Oui.
Oui, tout à fait. C'est un événement qui a pris une ampleur nationale, mais même internationale, à l'échelle de l'Europe à l'époque. Parce qu'on sait que notamment Roland de Lassus, qui était un des compositeurs les plus actifs dans diverses cours européennes, notamment en Autriche, il est resté 40 ans auprès d'Albert V en Autriche, est venu à Évreux pour participer à la première édition du Puits. Donc, et il a été primé à cette occasion également.
Et au travers toujours de cette exposition, il y a une de ses œuvres qui est mise en avant. Est-ce que vous pouvez justement en parler parce qu'il a écrit, il a composé beaucoup de choses, mais apparemment dans toute son œuvre, il y a une œuvre très marquante que vous mettez en valeur.
Ah oui, c'est un recueil qui rassemble plusieurs œuvres, en fait, qui rassemble 104 chansons différentes et qui s'appelle Musique de Guillaume Costelet, donc qui a été publié en 1570, donc l'année de son arrivée à Évreux, et c'est vraiment le sommet culminant de sa carrière, qui marque aussi une étape parce qu'après il va se retirer progressivement de la cour. Mais cet ensemble est vraiment très intéressant, déjà par sa construction. On a 5 cahiers différents, en fait, qui correspondent aux différentes voix de chaque chanteur. Donc on a la soprane, le contre-ténor, le ténor et la basse, donc 5 livrets. Enfin là, ça fait 4 livrets, c'est les 4 voix principales. Et le 5e livret, en fait, est dédié aux chansons qui sont à plus de 4 voix, donc avec parfois 5 à 6 voix. Donc c'est le livret de Quinta Pars. Et dans cet ouvrage, enfin dans ce volume de Quinta Pars, on a également des poèmes et des dédicaces de Guillaume Costelet à ses amis. Donc c'est un ouvrage très très riche.
Et au-delà de son travail d'organiste et de compositeur, on apprend aussi avec votre exposition qu'il était facteur d'orgue. En quoi consistait ce type de métier ?
Alors, le métier de facteur d'orgue, en fait, c'est celui qui construit, qui répare, qui entretient les instruments, en fait, qui entretient les orgues. Mais en fait, le terme de facteur s'emploie pour d'autres typologies d'instruments. On parle des luthiers quand il s'agit des instruments à cordes frottées, donc tous les instruments du quatuor. Mais pour tous les autres instruments, tous les fabricants sont appelés des facteurs. Donc, on parle de facteurs de piano, de facteurs de harpe, voilà. Donc, c'est un terme qui vient du latin, qui vient du mot qui signifie faire, en fait, produire. Et on parle de facteur d'instruments avant. Et donc, Guillaume Costelet était, de par son rôle d'organiste, aussi expert dans la facture et la production de ses instruments.
Et ce qui le mettait aussi à l'époque, qu'il l'a mis en relation avec, l'orgue de la cathédrale de Rouen aussi,
je crois. Il est parti en 1601 à Rouen pour expertiser cet orgue aux côtés d'un jeune organiste qui s'appelle Jean Titelous, qui va devenir un très très grand compositeur à la suite au XVIIe siècle et qui sera vraiment le fondateur de l'école d'orgue française.
Et comme on le disait, l'exposition Résonance met en lumière l'orgue du musée d'Evreux, l'orgue de Créton. Certaines parties anciennes y sont donc ainsi exposées. De quel type d'orgue s'agit-il? De quoi était-il constitué?
Alors là aussi, on est sur un orgue plein de mystères. Alors déjà, quand on vous dit orgue, je pense que la première image que vous avez à l'esprit, c'est un peu un orgue aux dimensions monumentales qu'on va retrouver comme à la cathédrale d'Evreux ou dans d'autres types d'églises. Et là, en fait, on est sur un orgue qui est totalement différent. Si vous êtes venu au musée, vous avez peut-être vu cet objet un petit peu surprenant qui ressemble peut-être pour certains un peu à une armoire. Et en fait, c'est un petit orgue, un orgue de cabinet, un orgue de salon, un orgue positif, parce qu'en fait, il existait plein de typologies d'orgues. Il y en a très, finalement, aujourd'hui, on pense vraiment aux orgues monumentaux, alors que depuis l'époque médiévale, on a pu créer des petits orgues, des orgues portatifs qu'on portait par exemple à la main, sous le bras, etc., et des orgues de salon. Et c'est le cas de cet orgue-là. Donc c'est un orgue qui a été redécouvert dans l'église de Créton en 1987, qui a été déplacé et qui a été démonté à cette occasion et qui est arrivé au musée dans les années 90 et qui a été remonté partiellement en 2015. Mais voilà, il faut savoir que c'est un orgue qu'on avait et qu'on a toujours un peu en kit au musée. Donc c'est pour ça que vous avez une vue un petit peu explosée finalement de cet instrument, parce que voilà, c'est aussi pour vous montrer un petit peu aussi la complexité, parce que les orgues, ce sont des instruments très complexes et très riches aussi en termes de tessiture. Et donc nous là, l'objectif, c'était de pouvoir montrer aux visiteurs justement tous ces éléments là par exemple les tuyaux. Alors on n'a plus la tuyauterie métallique qui a été fondue probablement, mais on a tous les tuyaux en bois, alors ce qui est beaucoup plus surprenant, parce qu'en plus on en a qui sont carrés alors qu'on pense plutôt des tuyaux ronds, mais voilà, qui sont pas présentés habituellement. Donc là, on a voulu mettre ça en avant. Donc c'est un instrument sur lequel on se posait beaucoup de questions, de quelle époque il date, etc. Ce qu'on a souhaité faire aussi cette année, c'est d'avoir une étude justement qui soit menée en profondeur sur cet instrument, ce qu'on appelle une étude préalable à la restauration. Donc une étude par deux experts qui sont spécialisés dans l'étude des orgues des monuments historiques et qui sont venus justement inspecter chaque pièce, chaque élément de cet instrument, le questionner. Et ils ont pu découvrir que le sommier de l'orgue, c'est vraiment la partie mécanique, un petit peu le cœur de l'instrument, c'est la partie la plus ancienne finalement, qui daterait la fin du XVIe siècle, et que tout ce qui va être à l'extérieur, donc ce qu'on appelle plutôt le buffet, donc c'est cette fameuse un peu forme d'armoire, le piétement, les soufflets, alors les soufflets, c'est ce qui produit l'air en fait dans l'orgue, tout ça, ça datait en fait du XVIIIe siècle. Et la partie la plus ancienne, donc vraiment ce cœur-là, il y a un facteur en fait très célèbre, une famille qui s'appelle justement les Langdul.
C'est une famille de Belgique, je crois.
Tout à fait, ouais. C'est ça, originaire des Flandres. Donc il y a deux membres qui vont être actifs à Paris à la fin des années 1580-1590. Ils seraient intervenus. On avait retrouvé une étiquette où on avait vu une petite mention Langdul. Bon, ok, une petite étiquette. Et là, ils ont pu justement... Alors, il y a plusieurs indices qui permettent de dire, il y a bien un des facteurs de cette famille qui est intervenu. Et alors, c'est pour ça que c'est un orgue qui est assez exceptionnel, finalement. C'est parce que, d'une part, on a ces facteurs qui étaient extrêmement célèbres du XVIe siècle qui sont intervenus. On conserve très peu d'instruments. Voilà, en France, il y a un orgue à Paris. Et en Belgique, je crois qu'il n'y en a même plus. Enfin, voilà, c'est vraiment assez exceptionnel. Et puis, on a aussi cette typologie de petit orgue, finalement, qui, là aussi, est assez, assez rare, hein, voire rarissime. Même. Donc voilà, c'est un instrument assez extraordinaire.
Mais justement, c'est très intéressant ce que vous dites, puisqu'on se rend compte donc qu'il y avait différentes dimensions, différentes tailles. Et à cette période justement historique, est-ce que l'instrument lui-même, donc il avait différentes fonctions? Est-ce que c'était parce que c'était pas seulement d'un point de vue religieux, il y avait aussi à la cour du roi, donc il y avait un mélange de fonctions finalement.
Tout à fait. Alors, les orgues, en tant que tels, ils ont pu être utilisés dans différents contextes, dans des contextes religieux, dans des contextes de salon. Alors, dans le cadre de l'orgue du musée, on ignore un peu sa vie au XVIIe siècle, on va dire. Alors voilà, on sait qu'il est créé en gros à Paris à la fin du XVIe siècle. Au XVIIe siècle, c'est un petit peu plus incertain, et on sait qu'au XVIIIe siècle, il arrive à Créton. Alors Créton, c'est maintenant c'est une commune qui est rattachée à Buis-sur-Danville. Donc voilà, si vous vous situez un petit peu au sud d'Évreux. Et on sait qu'à ce moment-là, il est dans l'église de Créton. Donc lui, il a vraiment une vocation, pour le coup, ecclésiastique, où il va rester quand même jusqu'en 1990. Mais effectivement, on a pu avoir, et à Versailles, par exemple, au château de Versailles, il y a un orgue de salon qui est conservé dans des appartements du XVIIIe siècle. Voilà. Donc effectivement, ils ont pu être utilisés dans différents contextes. Mais là, en l'occurrence, c'est un orgue, voilà, depuis le XVIIIe siècle, qui était dans une église.
Sur cette exposition, donc vous avez mis en avant cette résonance sur deux niveaux. Plus en détail, comment est-elle organisée? Quel type de pièces finalement le public va retrouver?
Alors, on a principalement, nous, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était les partitions de Guillaume Costelet, les originaux et en montrer. Et puis de l'autre côté, l'orgue qui fait partie des collections du musée, mais on a enrichi tout le discours avec notamment beaucoup d'archives qu'on a pu exploiter, les archives relatives au puits de musique notamment, donc qui viennent des archives départementales de l'Eure. On a également mis en valeur des portraits, les seuls portraits gravés connus de Guillaume Costelet, donc eux qui sont de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ensuite, on a aussi voulu créer un univers et montrer un peu l'univers musical de cette période de la Renaissance. Donc on a invoqué des tableaux qui permettent vraiment d'illustrer cela. Donc on a de très beaux tableaux qui viennent du musée de Saint-Germain-en-Laye ou encore du musée de Troyes.
Donc c'est vraiment une très très riche exposition dans l'ensemble de cette proposition, j'ai eu l'occasion de découvrir l'Orgel Kid, j'espère que je le prononce bien. Ça attire un peu la curiosité. De quoi s'agit-il exactement?
Alors c'est l'Orgel Kid.
L'Orgel Kid.
Voilà. Alors c'est un instrument qui est accessible à tous. C'est un outil de médiation, mais c'est un orgue miniature, on va dire, qui permet en fait aux visiteurs de comprendre comment ça fonctionne un orgue, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très intuitif, parce que c'est quand même un instrument avant avec des soufflets. Et là, en fait, le but, c'est de pouvoir vraiment que chacun puisse s'approprier ce fonctionnement particulier. Je tiens à préciser aussi que c'est un orgue qui nous a été offert par l'association des amis du musée d'Évreux, voilà, qui nous a accompagnés sur cet instrument là. Et c'est un outil en plus. Alors l'histoire est assez drôle, puisque voilà, on cherchait un outil de médiation qui puisse nous aider à comprendre cet instrument. Et en fait, la fabrique qui l'a réalisé, le facteur d'orgue, c'est la personne qui a remonté partiellement l'orgue du musée des collections en 2015. Voilà, donc l'histoire est assez drôle. Voilà, c'était pas forcément recherché, mais voilà, il y a quand même un lien assez drôle entre les deux.
Et donc cet objet de médiation, il touche aussi bien les familles, donc les enfants, j'imagine, un petit peu. Et je sais que voilà, sur l'ensemble du calendrier de cette exposition, vous avez proposé énormément de choses. Vous avez programmé des visites, des conférences, des concerts. Et vous avez encore des choses qui sont proposées, notamment pendant les vacances d'hiver, à destination également des enfants. Vous avez des ateliers de prévus. Vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît?
Oui, alors effectivement, on a, comme à chaque vacances scolaires, on a des ateliers prévus effectivement pour les familles. Alors sachant que l'orgue de médiation, lui, il est accessible en continu auprès du public. Parmi les autres événements, hormis les ateliers famille qu'on aura pour les vacances de février, on a aussi une visite qui est organisée par Zoé et moi-même pour le dernier jour de l'exposition, voilà. Et également une conférence par l'un des auteurs du catalogue, puisqu'il faut aussi préciser que cette exposition a aussi donné lieu à la réalisation d'un catalogue dans lequel on a cherché à faire intervenir différents spécialistes, à la fois de Guillaume Costelet, mais aussi des orgues. Voilà.
Donc ce sera vraiment une très très belle manière de clôturer cette exposition. On va rappeler à tous les auditrices, toutes les auditrices et auditeurs qui écoutent cette émission qu'on peut retrouver en détail le programme de cette exposition sur culture.evreux.fr ainsi que la rubrique événements ou le Facebook Evreux Musée. Et donc on vous remercie de votre venue pour être venues toutes les deux présenter donc cette exposition en tant que commissaire d'exposition. Donc Natacha Roring et Zoé Delacour, merci à toutes les deux, merci à vous.
Merci à vous.
Rediffusion d'une émission Principe Actif.
Ça vient de sortir également aujourd'hui le nouvel album de Crooked Man avec la reprise Don't Leave Me This Way, très connue par la chanteuse Les Communards et aussi la chanteuse Thelma Houston. Voilà, je vais y arriver. Et l'album est sorti aujourd'hui, ça s'appelle Crooked Steel dans Biblio++. Mm-hmm. Et voilà, on arrive à la troisième partie de l'émission, la chronique de l'ACEL, l'actualité culturelle extérieure dont je vais vous parler aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres, puisque ce soir, vous aurez l'occasion, pour les fans ou ceux qui ont envie de découvrir l'univers de David Bowie, Arte consacre une soirée entière dédiée à cette grande légende, à ne pas rater à 22h30 pour célébrer les 10 ans de sa disparition. Et oui, c'était le 8 janvier 2016, et nous confirmer que l'éternelle icône de la musique est encore bien présente dans l'esprit de chacune et de chacun. Deux documents inédits de David Bowie, enfin sur David Bowie, pardon. David Bowie, le dernier acte, donc ça ce sera à 22h30, et Heroes Never Die à minuit 5. Donc le premier documentaire qui s'appelle David Bowie, le dernier acte, est signé Jonathan Sciani. Il sera diffusé donc sur Arte, comme je vous le disais. Il est distribué par Channel 4 et également Arte. Ce documentaire évoque bien évidemment l'ensemble de la carrière de David Bowie, mais il démarre sur une période qui va de la période post-Let's Dance de 1983 pour suivre son travail de création et de recherche artistique permanent de la fin des années 80, mais aussi des années 90 au début des années 2000, et se concentrer sur son tout dernier album Black Star, sorti deux jours après sa mort. Black Star demeure un album extraordinaire par tout ce qu'il représente et pour la manière dont David Bowie l'a mis en scène, tant au niveau de l'écriture des textes, très évocatrice de l'état de santé dans lequel il se trouvait, que de sa démarche musicale avant-gardiste qu'il a toujours essayé de conserver. Entouré d'une génération de musiciens plus jeunes, c'est dans un registre jazz-rock qu'il enregistrera son dernier chef-d'œuvre, digne d'un véritable requiem. On écoute un petit extrait de l'album Black Star avec le titre « I Can Give Everything Away ». De ce documentaire David Bowie, le dernier acte, vous retrouverez à minuit 5 le documentaire Heroes Never Die, réalisé par Sylvain Gauthier et Thierry Leduc. Celui-ci vous propose de retrouver une série de reprises de David Bowie par des artistes d'aujourd'hui comme Anna Calvi, The Molotovs, Jan Haddad, Peter Doherty et Carl Barat des Libertines, ou encore Divine Comedy, soit pris en studio, soit en live sur des scènes, et entrecoupé de réflexions sur l'empreinte indélébile que a pu leur laisser cette légende de la musique. Durant sa carrière, Bowie déclarait ceci: j'aimerais croire que mes actions ont changé le monde de la musique. N'oubliez jamais que si vous avez commencé ce métier, c'est parce qu'il y avait quelque chose en vous que vous souhaitiez exprimer pour mieux comprendre, mieux vous comprendre et mieux comprendre votre place dans la société. Voilà, deux documents inédits ce soir à retrouver sur Arte. David Bowie, le dernier acte à 22h30 et Heroes Never Die à minuit 5, ou en streaming sur arte.tv. Thank you.
Dernière partie de l'émission consacrée au coup de cœur aujourd'hui, que je vais vous présenter deux coups de cœur à lire. On est dans l'esprit de la nuit de la lecture, donc des lectures de deux livres documentaires adultes. Le premier, on reste dans la musique avec le titre suivant, La chanson française un peu, beaucoup, passionnément, de Didier Varro et raconté par Martin Soudan aux éditions Le Robert. Son auteur, Didier Varro, vous le connaissez peut-être, certains le connaissent très bien, d'autres un peu moins, certains pas du tout, mais peu importe, celui-ci, Didier Varro, collectionne les casquettes, que ce soit pour la radio, la télévision, la presse. Il a exercé les métiers de journaliste, animateur, producteur, réalisateur, mais aussi directeur artistique et de production en maison de disques. C'est donc incontestablement un amoureux des musiques. Il était d'ailleurs, entre autres, à l'œuvre d'une émission de référence de musique électronique qui s'appelait Électron Libre sur France Inter au début des années 2000. Mais il attache également énormément d'importance au texte. On se souvient dans les années 2010 du lancement passionné et aventureux d'une revue dédiée à la chanson française appelée Serge, un clin d'œil gainsbourgien, assumé, mais qui ne trouvera hélas pas son public dans une époque dans laquelle la presse papier commençait déjà à décliner. Il fut bien sûr programmateur artistique du festival Les Francopholies de La Rochelle pendant de nombreuses années aux côtés de Jean-Louis Foulquier. Aujourd'hui, et ce n'est pas rien, il exerce la fonction de directeur musical des antennes de Radio France. Il est même depuis janvier 2022 à la tête de l'Hyper Weekend Festival, le premier festival de musique actuelle de Radio France dédié aux créations et à la jeune scène française, et programmé les 24, 25 et 26 janvier prochains. Cette grande passion de la chanson française, eh bien, il l'entretient depuis 40 ans. Et pour avoir rencontré de grands noms de la chanson française, il avait justement à cœur de mettre en avant toute cette passion. Ce livre, La chanson française, un peu beaucoup passionnément, qui nous raconte, met en avant 60 ans d'histoire. Comme nous l'indique la quatrième de couverture, c'est une balade musicale pour nous entraîner à travers des lieux, des dates, des moments qui ont forgé l'histoire de la chanson française. De Charles Trenet à Angèle, d'Edith Piaf en passant par Aya Nakamura, la chanson française se réinvente et se déploie dans une fresque vivante, miroir des évolutions de notre société. Didier Varro nous accompagne ainsi dans cette balade intime et partage avec nous une vision puissante de cette forme d'art au plus près des artistes. On nommera également, pour attiser encore votre curiosité, les groupes ou artistes Feu Chatterton, Dalida, Mylène Farmer, Claude Nougaro ou encore Juliette Armanet. À travers ce livre, vous découvrirez donc 21 histoires ou 21 épisodes de la chanson française sous le regard critique, professionnel, mais avant tout passionné d'une des plus grandes références du journalisme musical de ces dernières décennies. C'est une lecture durant laquelle vous vous laisserez porter par des histoires singulières et authentiques dans lesquelles la profondeur du récit est portée par des moments rares, précieux et étonnants, qui font de cette histoire de la chanson française une grande histoire d'amour que l'on peut tous et toutes partager et célébrer ensemble. Voilà, on poursuit avec un autre documentaire, cette fois autour du cinéma, avec Martin Scorsese, La filmographie intégrale d'un monument du cinéma, par Yann Nathan, édité chez Gallimard et traduit par Bérangère Viennot. Alors on commence également sur la quatrième de couverture qui est très édifiante au sujet du cinéma. Bien sûr que ce n'est pas la vie, c'est une invocation de la vie. C'est un dialogue constant avec la vie. Martin Charles Scorsese, de son vrai nom, est probablement le réalisateur vivant le plus adulé de tous, par ses pairs, ses critiques, par ses fans, par à peu près tous ceux qui s'intéressent au cinéma. Pour reprendre également les premières pages de ce livre, ce n'est pas une question de box-office ou de récompense, mais de cinéma. Point barre. Pour lui, un film est toujours personnel. Et là, tout est dit. Ce qui annonce cette histoire du cinéma, l'histoire d'un réalisateur qui s'étire des années 60 à aujourd'hui. Martin Scorsese avait deux inspirations au cours de son adolescence, la religion et le cinéma. Mais c'est bien la seconde qu'il choisira en s'inscrivant à l'université de New York pour étudier le cinéma quand il échouera auparavant au concours d'entrée de l'université des Jésuites. Découpé en 13 parties qui mettent en résonance son parcours et ses rencontres, 13 épisodes ou 13 thématiques qui viennent résumer la vie rêvée de cinéma, de 27 longs métrages et de projets de séries télé, documentaires ou autres publicités auxquelles il a contribué durant sa vie, et une vie bien sûr qu'il continue d'écrire, une vie qui continue de s'écrire et de se réaliser derrière la caméra encore aujourd'hui même après ce livre. Ce livre retrace ainsi le film de ses débuts dans un quartier de Manhattan de New York appelé Little Italy, des dédales de rue où il a grandi à ses dernières productions cinématographiques ou télévisuelles longues de ces derniers mois, car tout part de là. Pour lui, même s'il est né dans un autre quartier de Flushing dans l'arrondissement de Queens, de New York en 1942, c'est vraiment son départ de vie et artistique. Little Italy, c'est aussi le nom de cette première partie qui retranscrit le début de ses premières productions derrière la caméra dès 1963 avec une série de courts-métrages. Chacune de ces parties qui s'enchaînent, une drôle de bobine condamnée à la solitude, un narcisson, tentation, les rêves américains ou encore les illusionnistes, pour ne citer que, reflètent son état d'esprit, son inspiration et ses différentes influences qui l'ont construit depuis sa jeunesse, de ses mentors du cinéma à son propre parcours de fils d'immigrés italiens dans une jeune Amérique encore en proie à